Je me suis reproché après coup, la dernière fois, d'avoir couru un petit peu la poste et d'avoir manqué de clarté. J'aurais peut-être dû expliquer plus, m'attarder un peu davantage. Et d'autre part, certains auditeurs m'ont fait courtoisement observer que j'aurais pu donner plus explicitement la référence des ouvrages que je mentionnais, ce qui m'a renforcé dans le soupçon que j'étais allé trop vite. Alors, je commence aujourd'hui en répondant aux deux reproches, celui qu'on m'a fait et celui que je me suis fait, et en réparant, s'il est possible, ma double faute. Alors, je résume d'abord, mais alors du coup, je ne cours plus la poste, mais je me répète, enfin, rien ne va jamais, mais je résume la démarche que j'ai suivie. Un, la question « Quel est le nom du poète ?» est la question de la relation entre l'auteur et l'œuvre, telle que l'œuvre la suggère au lecteur et telle que le lecteur la perçoit. Et selon les époques, selon les lecteurs, selon leurs attentes, leurs registres de lecture ou de l'interprétation, eh bien, c'est une coïncidence entre l'auteur et l'œuvre a été soit admise comme une évidence, soit mise en doute, soit subvertie, soit récusée, soit simplement non envisagée. Deuxièmement, dans les dernières décennies, le regard posé sur cette question a radicalement changé. On est passé d'une minimisation du rôle des individus dans l'histoire, d'un refus de voir dans l'œuvre littéraire l'expression ou le reflet d'une personnalité, voire de la mise en question de la notion même d'auteur avec celle d'intériorité. Tout cela dans le cadre d'un structuralisme élargi de la linguistique à l'ethnologie, à la sociologie, à la psychanalyse et de là englobant l'œuvre littéraire. On est passé de là à des démarches d'analyse historique et littéraire fondées sur des études biographiques qui étaient naguère méprisées. Troisième point, les études médiévales ont accompagné ce mouvement. Ce sont des domaines où on cherche aisément une justification par le Moyen-Âge parce que c'est le début de notre langue et de notre littérature. Et les médiévistes sont souvent tout pharaux de montrer que le Moyen-Âge est moderne, c'est-à-dire qu'on y trouve un écho au mode de la modernité. Ils ont l'impression de justifier ainsi leur existence. Donc, à l'appui de la critique de l'intériorité et de la notion d'auteur, pour conforter l'idée que la littérature est réductible au jeu du langage, on a d'une part souligné l'anonymat d'une bonne partie de la littérature médiévale, de l'autre soutenu que la littérature médiévale est une poésie formelle qui ne cherche aucune originalité, mais doit s'apprécier uniquement comme un jeu de variations formelles menues au sein d'un code rigide dans l'ensemble respecté. Et l'aboutissement naturel de cette tendance étant la poésie des grands rhétoriqueurs, comme on dit, où les jeux du langage se déploient avec une virtuosité étourdissante. Paul Zumthor, qui était le grand maître, à juste titre, des études médiévales pendant cette période, a consacré un livre aux grands rhétoriqueurs. Mais voilà qu'aujourd'hui, où l'auteur est rentré en grâce et où la biographie, tant historique que littéraire, tient le haut du pavé, la perception même de la littérature médiévale a changé ou est en train de changer. Est-elle aussi fréquemment et délibérément anonyme qu'on l'a dit ? Est-elle aussi formelle qu'on l'a dit ? Que signifie sa tendance à insérer le nom de l'auteur dans l'œuvre elle-même, soit directement, soit sous forme d'énigme ? Que signifient les attributions déceptives, qui sont fausses, que tout le monde sait fausses, mais qui existent quand même, comme Gautier Map pour le Lancelot Graal, dont nous parlait Richard Traxler il y a 15 jours ? les signatures d'un simple prénom très courant, comme Jean, comme Thibault, sont-elles une mystification ou renvoient-elles à des personnages parfaitement identifiables à l'époque ? Comment interpréter les développements biographiques en prose autour des chansons des troubadours ? Cependant, avant d'aborder directement ces questions, nous avons observé que l'anonymat mis en avant par la théorie littéraire du second XXe siècle l'avait été bien auparavant par une pensée de la littérature qui en est à l'opposé, le romantisme, et que cependant il y a eu jusque récemment des collusions entre l'une et l'autre. Nous en étions là et à la fameuse rencontre romantique entre les études médiévales et le folklore. Mais avant de poursuivre, j'essaye de réparer ma deuxième faute en vous mettant sous les yeux les références des principaux ouvrages que j'ai cités la dernière fois, non pas par ordre alphabétique, mais dans l'ordre où je les ai utilisés. J'avais commencé par une citation de Rainer Warning dans un article qui s'appelle « Form narrative, narrative for Identitätskonstitution » im höfischen Roman. Et dans cette, cette grande entreprise de, d'introduction et de somme sur la littérature romane du Moyen-Âge, reprenant un ouvrage du même type de Gröber, beaucoup plus ancien, Grundriss der, pardon, j'ai mis des, der romanischen Literatur und Spitalalter, c'est ça, et dans le volume qui s'appelle, le, pardon pour le des, le roman jusqu'à la fin du XIIIe siècle, et qui était dirigé par les deux grands maîtres allemands de notre discipline à l'époque, Hans Robert Epagi, je ne sais pas, décidément, j'ai fait ça trop vite, Hans Matthiaus et Erich Köhler. J'avais cité cet essai fameux qui, en lui-même, quand on le relit, est très général, mais qui a considérablement inspiré, avec quelques années de retard, avec nos études, d'une poésie formelle en France au Moyen-Âge de Guillette, dans la Revue des sciences humaines de 1949, et qui a été réimprimé dans un recueil des ouvrages de Guillette en 1978. Les travaux de Dragonetti, La technique poétique d'être ouvert dans la chanson courtoise, contribution à l'étude de la rhétorique médiévale qui, en somme, approfondit l'intuition de Guillette et en fait une sorte de principe même, de principe herméneutique applicable au trouvert. Et puis, Le Gai Savoir, dans beaucoup plus bien des années après, Le Gai Savoir dans la rhétorique courtoise, Flamenca et Geoffroy de Poitiers, et Le Mirage des sources, l'art du faux dans le roman médiéval, qui est un livre qui jette le soupçon sur les attributions et leur sens. L'auteur dit qu'il s'appelle Guillaume, oui, mais le héros s'appelle aussi Guillaume, et Guillaume, ça ressemble au mot « guile » qui veut dire la ruse, la tromperie, etc. Nous reviendrons là-dessus. Puis, de Zumthor, le premier livre qui est peut-être le plus clair et où il y a déjà tout, d'une certaine façon, mais qui est très plus classique de forme, « La langue tactique poétique à l'époque romane », en 1966, puis l'essai de poétique médiévale, puis le livre sur les grands rhétoriqueurs dont je vous ai parlé. Il y en a beaucoup d'autres. Langtext, Lenning, parler du Moyen-Âge qui mériterait d'être cité même dans le contexte de ce cours. Mais j'ai cité le deuxième livre sur l'oralité, La lettre et la voix de la littérature médiévale, le premier portant sur les littératures orales dans leur ensemble à travers le monde, et je vais d'ailleurs en reparler dans un instant. Et puis, j'avais, à propos de l'idée romantique du génie des peuples et de leur première poésie, il y a une bibliographie énorme, mais le livre de Peter Burke, Popular Culture in Early Modern Europe, enfin 1978, est un livre qui porte plutôt sur les temps modernes ou les débuts des temps modernes, mais le premier chapitre, c'est un livre absolument admirable, et le premier chapitre sur cette pensée romantique et sur les origines médiévales est vraiment magnifique, à la fois très synthétique, court, mais très beau. J'ai cité mon petit livre donc, sur les effets de passé dans la littérature Moyen-Âge, qui correspondait au premier cours que j'avais fait ici. Et puis, au moment où je terminais, je parlais des Romanzen und Pastorellen de Karl Bartsch et ce que révèlent des conceptions de l'époque, et même des décennies qui commençaient déjà à être vieillissantes en 1870, des conceptions de l'époque sur la relation entre poésie médiévale et poésie populaire. Et maintenant, je reprends où j'en étais avec notre Bartsch. Vous vous rappelez que je parlais à ce moment-là du parallèle entre la littérature médiévale d'une part, le folklore et la littérature orale de l'autre, parallèle où la question de l'anonymat se pose de façon essentielle, comme il se posait aussi dans un cas particulier que nous envisagerons à part, celui des chansons de gestes. Dans le cas de la relation littérature Moyen-Âge et littérature folklorique ou populaire, la question se posait puisque la théorie romantique qui veut que l'identité de chaque peuple s'exprime dans les premières manifestations de sa poésie et dans celles qui plus tard sont supposés continuer d'échapper à des influences extérieures, la littérature populaire, eh bien, cela exige, par définition, qu'une telle poésie soit anonyme, puisqu'elle est supposée émaner spontanément de l'âme du peuple, être une création collective, et que c'est à cette condition seulement qu'elle échappe à ces fameuses influences extérieures qui ne manquent pas de s'exercer sur un poète formé et cultivé. Donc, on avait tendance à considérer, a priori, que les œuvres anonymes étaient les plus anciennes et, d'une certaine façon, les plus authentiques. Et c'est à ce sujet que j'avais cité l'ouvrage, l'anthologie de Bartsch, Altfranzösische Romanzen und Pastorellen, Romanzen und Pastorellen, donc romans et pastorelles en ancien français, avec cette idée des romances, le genre moderne à son époque, genre qui correspond au pré-romantisme allemand, qui correspond au romantisme européen, mais qu'il projette rétrospectivement sur certaines formes de la poésie médiévale, comme les chansons de toile. En les éditant, il édite d'abord les pièces anonymes et à la fin, dans une section particulière, les pièces attribuées à un poète, et de même pour les pastorelles, la séduction de la bergère par le chevalier, ce genre qui n'est pas vraiment un genre populaire, parce que c'est le point de vue, si on peut dire, le point de vue du séducteur, du chevalier. C'est un genre qui, justement, qu'il considère comme populaire parce qu'il passe ensuite dans la chanson populaire au prix d'une sorte de renversement des points de vue, dans la chanson populaire française et d'autres pays, mais ces chansons populaires qui sont en fait des chansons du XVIIe siècle généralement, eh bien, le point de vue est celui de la jeune fille séduite ou tout contente de séduire. On peut On a cité, enfin, nous en connaissons tous, j'avais cité « Derrière chez nous, il y a un étang, trois beaux canards y vont nageant », ou « Au fils du roi, tu es méchant », puis en plus, il est maladroit, le fils du roi, puisqu'il vise le canard noir, il tue le blanc, etc. Mon père avait 500 moutons, donc le fils du roi protège les moutons du loup. Quand je tondrai mes blancs moutons, vous aurez de la laine, mais de la laine, je n'en veux pas, je veux ton cœur, bergère. Oui, mais mon cœur, vous ne l'aurez pas. Je l'ai promise à Pierre. Dans ce retournement, la bergère est vertueuse et envoie promener le séducteur. Mais guidée probablement par ses chansons, en se reportant au Moyen-Âge, Bartsch intègre les pastourelles avec les romances comme caractéristiques des premières manifestations d'une poésie encore à demi populaire, et il les sépare tout à fait artificiellement en pastourelles anonymes, pastourelles de poètes connus. Alors, évidemment, ces conceptions ont été abandonnées avec le développement de la philologie positiviste, et on ne trouve pas depuis de mots assez durs pour flétrir les médiévistes romantiques. Mais ceux-là même qui ont condamné cette conception de la littérature du Moyen-Âge du folklore n'ont jamais réussi à s'en débarrasser, pour toutes sortes de raisons, dont certaines sont mauvaises et dont d'autres sont bonnes. Je le dis de façon extrêmement superficielle et rapide et triviale en ce moment, mais tout à l'heure au séminaire, nous écouterons Madame le professeur Ursula Beller, qui est la grande spécialiste de Gaston Paris et qui expliquera ça comme il le faut, certainement, et beaucoup d'autres choses. Donc, on n'a jamais pu s'en débarrasser pour des raisons bonnes ou mauvaises. D'une part, les similitudes ou les filiations entre la littérature du Moyen-Âge, d'une part, les contes et les chansons populaires de l'autre, étaient indéniables. La parenté crève les yeux, alors reste à l'expliquer. Mais enfin, la parenté existe. D'autre part, le renoncement au romantisme n'empêchait pas que l'histoire littéraire, qui était une discipline nouvelle à l'époque, que l'histoire littéraire s'opposait, en se voulant justement un domaine de l'histoire et une science positive, à la rhétorique. Jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle, on n'enseigne pas l'histoire littéraire, quand les études littéraires sont des études de rhétorique. Des études de rhétorique, et d'ailleurs, la classe s'appelle encore classe de rhétorique, comme Antoine Compagnon vient de nous le rappeler. Et ça s'appelait encore dans notre jeunesse, classe de rhétorique, la classe de première. C'était des études de rhétorique. Et ces études de rhétorique supposaient une sorte de permanence des valeurs littéraires et esthétiques. Il y avait, elles se fondaient sur quelque chose qu'on peut appeler une pensée classique, l'idée qu'il y a un modèle qui est le modèle antique et que l'on adapte, que l'on imite, etc., qui donne des leçons de bien écrire et de bien parler que l'on mette en pratique. Mais le développement de la philologie comme science a eu cette conséquence d'une relativisation des valeurs esthétiques de la littérature et d'une historicisation. On a vu que selon les époques, selon les régions, selon les peuples, eh bien, le goût changeait. Que les façons d'écrire, les façons de raconter, l'idée de la poésie, que tout cela variait, et qu'il n'y avait pas de jugement de valeur à apporter, mais qu'on étudiait ce qui se passait aux différentes époques et chez les différents peuples. Donc, l'universalité et l'intemporalité des valeurs héritées de l'Antiquité s'écroulaient, et l'histoire littéraire s'enracinait dans une histoire de l'Europe. Alors, seulement, ce n'était pas aussi simple, et cela avait des conséquences. Ce n'était pas aussi simple parce que ceux-là même, les savants même, qui aboutissent à cette conclusion ou qui ont cette vision des choses, continuent à avoir leur goût propre. Et ce goût, chez la plupart d'entre eux, formés à la vieille école, est le goût de l'Antiquité. Et un savant comme Gaston Paris, sensible à la fraîcheur et au charme de la littérature du Moyen-Âge, à d'autres moments, dit « oui, mais enfin quand même, il faut bien dire que c'est peu de choses quand on met à côté la littérature grecque ou même la littérature latine ». De sorte qu'il y avait une sorte de tiraillement. Mais surtout, le moment où ces conceptions émergent, le XIXe siècle, c'est l'époque du bouillonnement autour des nationalités. C'est l'époque des combats pour l'unité italienne, pour l'unité allemande. C'est l'époque des nationalismes. Et l'intérêt même de la pensée romantique pour le Moyen-Âge était lié à ces nationalismes naissants. Pour des gens qui sont tiraillés entre leur goût et leur idéologie, si je puis dire, Herder lui-même s'intéresse d'abord à la littérature antique, il s'intéresse d'abord à la littérature grecque. C'est à elle que va son amour et son goût. Mais l'idée qu'il se fait de la manifestation du génie des peuples le tourne vers l'ancienne littérature germanique. Et l'hostilité à un classicisme à la française qui rabote tout, qui uniformise tout sous des lois universelles, mais qui en même temps est le signe d'un impérialisme culturel du français, le conforte dans ses conceptions. Et dans ce contexte, l'histoire littéraire ne pouvait pas se passer de l'idée que chaque peuple a son génie propre. Cette idée qui est l'idée première de l'esthétique littéraire romantique et de la conception à la fois de la poésie du peuple et de la poésie littéraire chez les romantiques. Seule l'identité irréductible de chaque peuple justifiait que chaque peuple écrivit sa propre histoire littéraire et que l'histoire littéraire fut chaque fois conçue comme une histoire nationale, ce qui ne s'imposait, à vrai dire, nullement. Lorsqu'aujourd'hui nous regardons la littérature, les littératures de l'Europe médiévale, eh bien, les similitudes nous frappent beaucoup plus que les oppositions. Et nous avons l'impression d'un continuum littéraire et culturel. Mais pour nos prédécesseurs, ce n'était pas admissible. Les historiens de la littérature médiévale se veulent positivistes dès les années 1860. Ils refusent d'être considérés comme des romantiques. Mais qu'ils soient français ou allemands, surtout les Français, ils sont généralement, à partir de la guerre de 70, nationalistes. Et surtout les Français, parce que les Français avaient été vaincus, donc ils avaient à rattraper. Or, le nationalisme littéraire est romantique. C'est l'idée même du romantisme. Donc il n'y avait pas moyen, tant qu'on restait dans cette vision nationaliste des littératures, il n'y avait pas moyen d'être non romantique, en dehors même des raisons qu'il y avait de rapprocher littérature du Moyen-Âge et folklore. Raison augmentée encore, mais je l'avais dit la dernière fois, par le fait que c'est le romantisme qui a redécouvert et remis en valeur souvent ces littératures médiévales, et particulièrement les peuples où ces littératures avaient survécu de façon peu fixée, plus ou moins orale, donc justifiait cette approche par le folklore. Et je donnais comme exemple la Finlande, hein, où le Kalevala, c'est un poème du XIXe siècle, d'Elias Lönnrot, mais en même temps, c'est un poème qui collecte l'ensemble de légendes effectivement anciennes et dont la connaissance est d'un extrême secours pour le médiéviste, parce que le sample, l'espèce de chaudron de fécondité du Kalevala a des ressemblances avec le Graal, parce que on retrouve dans les personnages du Kalevala, le barde Weinmann, le forgeron Ilmarinen, etc., on retrouve le Valhalla de la mythologie germanique, ou des échos extrêmement proches, et qu'on ne peut pas s'en passer. Enfin bon. Donc, tout ça pour dire que ce lien romantisme-nationalisme. Et lorsque cette forme de nationalisme a disparu après la Deuxième Guerre mondiale, à ce moment-là, ce lien romantique, littérature du Moyen-Âge, folklore, ce lien romantique qui privilégiait donc l'anonymat, ou qui lui accordait une valeur, en quelque sorte, eh bien, ce lien aurait pu disparaître. Mais théorie littéraire qui a triomphé à ce moment-là, dans la seconde moitié du XIXe siècle, et qui était naturellement encore plus farouchement anti-romantique que le positivisme, parce que le positivisme l'était pour des raisons de sérieux philologiques et historiques, si on veut. Mais la théorie littéraire du XXe siècle l'était pour des raisons, si on peut dire, idéologiques, parce que le romantisme représentait à ses yeux la croyance en l'originalité du poème, en la sincérité de ses épanchements, en la possibilité pour l'œuvre de refléter la personnalité et l'âme de son auteur. Eh bien, cette théorie avait cependant, comme je l'ai dit la dernière fois, besoin de l'anonymat pour conforter l'idée d'un fonctionnement impersonnel du langage et du texte. L'anonymat, c'était bon pour ça. Voyez, le Moyen-Âge, lui, qui a une poésie formelle, n'a pas d'auteur, tout ça allait ensemble. Et on a vu, de cette façon, Paul Zumthor, me garde bien de critiquer Paul Zumthor, qui était d'abord très savant. C'était quelqu'un qui avait une formation philologique extrêmement solide, qui avait été un élève de Wartburg, et qui était un esprit extraordinairement subtil, donc qui n'est jamais tombé dans les simplifications ou dans une sorte d'éloignement des textes pour les faire entrer dans une grille préétablie. Et Paul Zumthor a consacré une enquête approfondie, qui lui a pris des années et pour laquelle il a couru le monde, et deux ouvrages remarquables, à la poésie orale, en comparant les formes qu'elle revêt dans le monde entier au statut qui était le sien au Moyen-Âge et qui, selon Paul Zumthor, était plus important qu'on ne le croit généralement. Alors, d'un côté, cette insistance sur l'importance de la poésie orale au Moyen-Âge pouvait avoir une sorte de parfum post-romantique, et en même temps pouvait être une défense d'une création, en somme, presque automatique ou autonome ou indépendante d'une personnalité et aller dans le sens qui était celui des théories de l'époque. Mais Paul Zumthor était un esprit beaucoup trop habile et beaucoup trop pénétrant pour tomber dans le piège et l'illusion de l'oralité. Parce que l'oralité médiévale, nous ne la connaissons que par l'écrit, évidemment. Nous n'avons pas d'enregistrement. C'est évidemment par l'écrit que les œuvres sont parvenues jusqu'à nous. Les effets de l'oralité ont été conservés dans l'écrit, par le scribe, et parfois ils ont été artificiellement recréés par le scribe. Lorsque dans une chanson de geste, on trouve « et maintenant je vais m'arrêter pour faire la quête et si vous ne me donnez pas assez, je ne vais pas continuer à chanter », il y avait un scribe qui, dans le silence du scriptorium, a écrit « et maintenant je vais m'arrêter de chanter et je vais faire la quête ». Et lorsque le chanteur dit « taisez-vous, on ne s'entend plus » ou bien etc. Bon, et, c'est un effet artificiel. Et le scribe copie un manuscrit sur un autre manuscrit. Et ça, on le voit. Ce ne sont pas des, ou très exceptionnellement, et dans des cas qui ne sont pas littéraires, reportationnes, de sermons ou des choses de ce genre, l'écrit ne note pas ce qui est entendu, comme on prend des notes à un cours. L'écrit est copié sur un autre écrit. De tout cela, Zumthor est bien conscient et il distingue soigneusement une oralité première des civilisations où les œuvres sont composées, diffusées et conservées oralement, d'une oralité seconde, comme il dit, qui est celle du Moyen-Âge. Les œuvres sont composées de façon mixte, dirons-nous, bon, et on ne peut pas toujours bien le préciser. Elles sont diffusées oralement par la récitation, par le chant, mais aussi par la lecture à voix haute, et elles sont conservées par écrit. Et diffusées aussi par écrit, en ce sens que là, ce n'est pas de récitation en récitation qu'elles se propagent, ou au moins ce n'est pas ainsi que nous les saisissons, mais de copie en copie. Et Zumthor met l'accent non pas sur l'oralité en elle-même, mais sur la voix de l'interprète. Vous voyez, le sous-titre est le titre est la lettre et la voix, et puis de la littérature entre guillemets, parce que comme c'est de la voix, le mot lettre ne convient qu'à demi de la littérature médiévale. Il met l'accent sur la voix de l'interprète, voix qui est naturellement perdue directement pour nous, mais dont la qualité, les modulations, les effets faisaient, selon lui, partie intégrante de l'œuvre, dont la conservation par écrit est une conservation mutilée. Alors, ces considérations complique encore la question de savoir quel est le nom du poète. Car le poème est-il rapporté à celui qui le signe ou qui en signe la copie, comment ça va, à celui à qui on l'attribue, à celui qui s'y nomme, à celui qui s'y laisse deviner, ou bien à celui dont la voix le porte, le fait, à celui qui le fait résonner, à celui qui est physiquement présent devant les auditeurs. Et les auditeurs, instinctivement, le rapportent à celui-là qu'ils voient. Songeons à l'hésitation qui est la nôtre aujourd'hui encore. L'auteur d'une chanson, est-ce que c'est le chanteur ou est-ce que c'est le parolier ? Pour tout le monde, alors on sait peut-être bien qu'il y a un parolier qui a écrit la chanson, mais tout le monde dit la chanson de, et on cite le chanteur, on rapporte au chanteur. Alors, nous verrons bientôt, à propos d'un troubadour, à quel traitement vertigineux se prête cette question. Qui est le propriétaire de la chanson ? Est-ce que c'est l'auteur ? Et qu'est-ce que c'est qu'être l'auteur, etc. Mais pour l'instant, et pour serrer les questions, je commence par le début. On va me dire le début, j'en sors pas, mais enfin... Non. Et qu'est-ce qu'un auteur au Moyen-Âge ? Et pourquoi ? Notre question est quel est le nom du poète et non pas quel est le nom de l'auteur ? C'est plus joli quel est le nom du poète, c'est plus, ça intrigue plus. Mais enfin, ce n'est pas uniquement tout de même pour ça que je l'ai appelé comme cela. La question quel est le nom du poète s'ancre évidemment dans la question de l'auteur, non pas seulement, non pas même prioritairement celle de l'identification de l'auteur, mais celle de la représentation de l'auteur, représentation à ses propres yeux et représentation aux yeux du lecteur. Celle, et alors là je parle vraiment comme un enfant du XXe siècle, celle de la production de l'auteur par le texte. Non. Jacqueline Cerchiglini-Toulet, parlera au séminaire la semaine prochaine, dans un ouvrage collectif dirigé par Jean-Yves Tadier, La littérature française dynamique et histoire, donc le premier tome, au premier tome ont collaboré donc elle-même pour le Moyen Âge, Franck Lestringant pour le 16e, Georges Forestier pour le 17e, et Emmanuel Bury. Donc dans le chapitre sur le Moyen Âge, Jacqueline Cerchiglini-Toulet a décomposé ce chapitre en sous-parties et le chapitre s'intitule La question de l'auteur et elle le décompose en parties qui s'intitule Qui compose, la désignation d'une fonction, une conscience d'auteur, signé, portrait de condition, les fictions de l'auteur, ou les fictions d'auteur plutôt, de l'intérêt pour l'auteur au Moyen Âge. Eh bien, ces sous-titres définissent exactement les questions que nous sommes amenés à aborder, ou pour le dire autrement, les voies que nous emprunterons à un moment ou à un autre pour tenter de répondre à la question que nous posons. Mais il y a ce mot d'auteur auquel il faut d'abord régler son compte. Et il faut montrer pourquoi, s'agissant des lettres médiévales, il s'applique mal à notre propos et pourquoi je lui ai préféré le mot poète, dont le sens médiéval n'est à vrai dire pas plus satisfaisant et dont le sens moderne est trop restreint, mais dont les ambiguïtés sont plus faciles à lever. Pour nous, L'auteur, c'est celui qui a écrit ou composé un texte ou un livre. Tout dans ce texte ou ce livre est de lui. Et donc, ce texte ou ce livre lui appartient. Il exerce sur lui un droit d'auteur, comme nous disons, qui est un droit à la fois moral et matériel. On ne peut pas l'imprimer, le copier, le diffuser, le citer, sans spécifier qui est de lui et sans le payer pour ce qu'on lui prend et qui est à lui. Et inversement, il est tenu de signaler ses propres emprunts, de restituer ses citations à leurs auteurs, sous peine de se rendre coupable de plagiat. L'auteur est tout cela parce que l'auteur est considéré comme le créateur de l'œuvre et défini de cette façon. Au Moyen Âge, le mot a fondamentalement un sens différent, et différent sur deux points essentiels. D'une part, l'auteur, c'est celui, d'abord celui qui a autorité, puisque c'est le même mot, auctor, auctoritas. Et c'est pourquoi il existe un lien au Moyen Âge entre la notion d'auteur et la notion d'ancienneté. L'autorité est celle du passé. Pour le Moyen Âge, l'autorité est dans le passé, autorité biblique ou patristique, autorité antique et classique. Et d'autre part, le mot auctor est de la même famille que le verbe augere, augmenter. Et le Moyen Âge le sait très bien. L'auteur n'invente pas à partir de rien. Il amplifie un texte préexistant. L'auteur est celui qui augmente. Et alors là, bon, on me dirait, bon, j'accumule les fautes, mais je m'inspire de quelque chose que j'ai déjà fait. Et il y a eu, je ne sais pas, 4 ans, 5 ans, je ne sais plus, le colloque de rentrée du Collège de France portait sur auteur et autorité, et j'avais fait quelque chose sur auteur et autorité au Moyen Âge, et donc je fais... je ne peux pas toujours faire du nouveau sur auteur et autorité, ce que j'ai dit. Et donc, je m'inspire de ce que j'avais dit à ce moment-là, ce qui est strictement défendu. Et, mais enfin, bon, voilà. Donc, pendant le reste de cette heure, je serai en faute. Et partiellement en faute. Donc, au Moyen Âge, l'autorité appartient aux auteurs du passé, ou plutôt, il n'y a d'auteur que du passé. Vous voyez ? Dans un poème qui s'appelle « Le donné des amants », que Jean Gaston Paré, ça va être édité dans la Romania de 1896, « Prenez garde de ces octours, des trépassés, des ancessours, comme fut Ovid et Maron, Lucan, Estas et Caton. Portez attention à ces auteurs morts depuis longtemps, à ces ancêtres que furent Ovide, Virgile, Lucan, Estas et Caton. Donc Maron, Virgilius Maron. Donc des auteurs trépassés, des ancêtres. Les auteurs sont antiques, ou à tout le moins, ils appartiennent au passé. Parce que si les auteurs ne sont pas antiques, ils sont modernes. Or, moderne n'est pas contemporain. Vous savez, on se moque assez des historiens aujourd'hui parce que l'histoire moderne s'arrête à la Révolution. Au-delà, c'est l'histoire contemporaine, n'est-ce pas ? Et alors, les tenants d'une culture et d'une éducation uniquement fondée sur le monde d'aujourd'hui disent, voyez, ces gens rétrogrades pour qui la modernité commence au XVIe siècle et s'arrête au XVIIIe, et où Napoléon est contemporain. Mais c'est, ils ont parfaitement raison, les historiens, parce que moderne ne veut pas dire contemporain. Modernus est un dérivé de modo qui signifie récent. Ce qui est récent est passé. Sinon, ce serait présent. Si c'est récent, c'est que c'est passé. Et la confrontation médiévale entre anciens et modernes n'est pas une confrontation entre le passé et le présent. C'est une confrontation entre le passé lointain et le passé proche. Et c'est ainsi que fonctionne l'enseignement. On dirait que ça n'a pas changé. Dans l'enseignement du trivium, le maître de grammaire ou de rhétorique lit un auteur classique, il lit ensuite en même temps le commentaire qu'en fait un moderne autorisé, c'est-à-dire un auteur moins ancien. Par exemple, il lit Virgile et puis le commentaire de Servius sur Virgile. Et puis, il l'explique l'un et l'autre. De même, le maître en théologie lit la pagina sacra, il lit l'écriture, puis il lit un commentaire moderne, récent, sur la pagina sacra, mais le commentaire existe déjà, il est déjà diffusé, il n'est pas d'aujourd'hui. Par exemple, les sentences de Pierre Lombard, et puis il ajoute son grain de sel. Le prédicateur choisit une phrase de l'Écriture sainte, qu'il prend pour thème, on dit, de son sermon, et il en commente chaque mot grâce à d'autres citations scripturaires ou patristiques où le même mot apparaît, en poussant parfois jusqu'à des auteurs récents, scolastiques rarement, mais des auteurs monastiques. Assez vite, on cite Saint Bernard, par exemple, mais Saint Bernard est déjà mort quand même quand on le cite. Non. Et même dans la littérature vernaculaire, dans les chansons de gestes françaises, on trouve parfois le mot « autorité » employé pour désigner, de la façon la plus vague, la source où le poète a puisé sa matière, source dont il veut évidemment faire croire qu'elle remonte fort loin, mais qui ne peut lui être parvenu que récemment, sous une forme récente. On trouve dans l'autorité qu'il n'était personne d'aussi vaillant que lui. Bon, vraiment une banalité, de dire que le héros est vaillant. Mais on le trouve dans l'autorité. Bon, on a trouvé. C'est pas moi qui le dis, ça a été dit avant moi. L'un était galant, on le dit, c'était la vérité, et l'autre, munifiquant, nous dit l'autorité. Alors, au moment où l'histoire est naturellement totalement fictive, on éprouve le besoin de dire que c'est la vérité vraie et que c'est transmis par l'autorité. De sorte que cette idée d'autorité nécessairement passée, ancienne ou moderne, mais moderne, c'est encore passé, va de pair avec le fait que l'auteur est celui qui augmente, puisque tout fonctionne par cette sorte de boule de neige. L'auteur a l'autorité, donc il est dans le passé, et de passé ancien, passé plus proche, etc., les choses s'augmentent. Bon. Donc, auteur et auctoritas sont de la même racine que augere, augmenter, et l'auteur se définit par le fait qu'il l'ajoute. Et on le trouve, mais dans ses propres termes, chez Conrad de Hirsau, H-I-R-S-A-U, qui, Conrad de Hirsau, a écrit à la charnière du XIe et du XIIe siècle le plus célèbre des accessus ad auctores. Les accessus ad auctores, donc accès ou introduction aux auteurs, justement, c'était comme des manuels pour professeurs de grammaire et de littérature, ou pour étudiants de grammaire et de littérature. Et donc, pour donc ces introductions aux auteurs, donc c'était les auteurs qui ont autorité, les auteurs du passé, les auteurs classiques, de la latinité classique, et on disait, là encore, c'était un peu comme le Lagarde et Michard, qui ils étaient, quand ils avaient vécu, pourquoi ils avaient écrit, ce qu'étaient leurs ouvrages, et puis on répondait à diverses questions. Et alors, donc, dans celui de Conrad Hirsau, on dit il y a une définition des différentes catégories qui est bien intéressante. Alors, c'est fait comme des catéchismes par questions et réponses. Donc, le disciple pose une question et le maître répond. Voilà. Donc, je ne dis que ma traduction. Le disciple, dis-moi aussi quelle est la différence entre un auteur, un poète, un historien, un commentateur, un vates. Alors là, comment traduire donc ce personnage, ce poète inspiré, un exégète, quelqu'un qui fait des discours, sermonarium. Le maître, écoute, l'auteur, auctor, est ainsi nommé à partir du verbe augmenter parce que, avec sa plume, il amplifie les faits, les dits ou les idées de ses prédécesseurs. Et je m'arrête là. Ensuite, il continue ses définitions. Nous reviendrons sur le poète. Donc, vous voyez la définition, puisque l'auteur se définit par le fait qu'il ajoute à quelque chose qui existe déjà, il n'est pas premier, il ne se confond pas avec le créateur. L'auteur de mes jours, selon la formule consacrée, a augmenté le nombre des créatures en m'engendrant, mais il ne m'a pas créé, seul le créateur crée. Il a tout créé, sauf le Fils, qui, de même nature que lui, a été engendré, non pas créé, selon la formulation du symbole de Nicée-Constantinople. L'auteur, lui, augmente. Et, évidemment, il serait tout de même artificiel et sophistique de prétendre réduire la complexité de la notion à la racine étymologique du mot, comme de donner à cette acception purement étymologique des résonances théologiques trop précises. Et d'ailleurs, le mot « auctor » est fréquemment appliqué à Dieu. Le créateur a bien augmenté de la création le vide ou le chaos primordial. Il n'y avait rien et il y a eu quelque chose. Alors, remarquez, c'est une question qui est à la fois philosophique ou qu'on pourrait poser à notre physicien quantique et prix Nobel d'administrateur. Est-ce que quand on ajoute au vide, on augmente? Quel est le rapport entre rien et quelque chose? Mais enfin, bon, laissons cela. On est ramené, vous savez, à la question de Leibniz, qui est la seule question digne d'être posée. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Je reviens à notre auteur, et d'ailleurs, je m'arrête bientôt. Alors, donc, on ne veut pas en rester là. En latin classique, en latin médiéval, auctor a des emplois très, très variés, très concrets, dans lesquelles la notion d'augmentation est toujours perceptible à la réflexion, mais enfin auxquelles l'esprit ne l'associe pas immédiatement et spontanément. Reste cependant l'observation fondamentale au regard de laquelle la notion étymologique garde toute sa valeur. Au Moyen Âge, le mot « autorité » désigne avant tout des textes. Quand on dit « nous trouvons dans l'autorité », ça veut dire « nous trouvons dans les textes ». Et le mot « auteur », qui est d'ailleurs usuel au sens d'écrivain dès le latin classique, le mot « auteur » désigne ceux qui ont écrit les textes. Les textes qualifiés d'autorité ajoutent du sens au déchiffrement du monde et à qui sait les lire, ils livrent une vérité du monde. Ce sont des textes anciens dont le sens caché est révélé au fil du temps par les ajouts des lecteurs autorisés qui les commentent. L'idée d'augmentation est bien sous-jacente et la nécessaire ancienneté de l'autorité textuelle prend tout son sens à la lumière de cette idée. Lorsque Marie de France, dans le prologue de ses Lais, dit « les auteurs anciens ont fait exprès d'écrire de façon obscure pour qu'ensuite on puisse peu à peu découvrir le sens de ce qu'ils disent », eh bien, c'est une sorte de vulgarisation de cette idée. Comment cela, tout cela, je m'égare en plus, va-t-il nous ramener au poète et à son nom? C'est ce que nous découvrirons la semaine prochaine. Je vous remercie.